VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, il est 13h au Caire en Égypte, 11h en temps universel. Le pape François entame aujourd'hui un voyage au Caire dans un climat dramatique pour la plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient, la cible d'attaques djihadistes, l'occasion pour le souverain pontife de prôner la tolérance aux côtés du grand imam sunnite d'Al-Azhar. L'atterrissage de l'avion papal au Caire est prévu à 14h local, 12h GMT, pour une visite éclair de 27h seulement dans un pays placé sous état d'urgence. Les enjeux de la visite du pape en Égypte, Gabi Dorsil.
C'est une période dure pour la communauté chrétienne. Ses responsables parlent de crise existentielle face à la recrudescence des attaques du groupe État islamique. Plus de 70 membres de la communauté copte ont trouvé la mort récemment dans des attaques commanditées par le groupe djihadiste et les militants ont promis de nouveaux attentats. Une double explosion le jour de Pâques a fait 45 morts. Avant la Noël 2016, une attaque suicide avait fait 28 morts dans la cathédrale principale du pays. Une campagne de terreur dans le nord du Sinaï a contraint nombre d'Égyptiens à la fuite en février et en mars dernier. Le pape arrive au Caire ce vendredi avec pour mission de renforcer les liens du Vatican avec les dirigeants musulmans en colère suite aux critiques de son prédécesseur, le pape Benoît XVI, relatives au traitement des fidèles chrétiens. Le dialogue est d'ailleurs rompu depuis 2011. Les Coptes représentent environ 10% de la population égyptienne et ils craignent de subir le même sort que leurs frères et sœurs d'Irak et de Syrie, cibles répétées de Daesh. Le message de paix et de tolérance du pape François devrait résonner favorablement auprès du gouvernement égyptien et du grand imam Ahmed Al-Tayeb, un modéré qui a déjà condamné l'extrémisme et le sectarisme.
La Cour d'appel des Chambres africaines extraordinaires à Dakar a confirmé la peine de prison à perpétuité à l'encontre de l'ancien dirigeant tchadien Hissène Habré pour des crimes commis de 1982 à 1990. L'avocat américain Reed Brody qui s'est battu pendant plusieurs années aux côtés des victimes du régime Habré s'est réjoui de la fin de l'ère de l'impunité pour les plus forts. Reed Brody.
Le message, c'est que pas seulement en Afrique, mais à travers le monde, que s'ils commettent des atrocités, ils ne seront jamais hors de portée de leurs victimes. Je pense que les jours où les tyrans pouvaient brutaliser leur peuple, piller le trésor de leur pays et s'installer avec leur compte en banque ailleurs, ces jours-là touchent à leur fin.
Le quotidien des réfugiés maintenant est de la communauté haute du lac Tchad avec l'arrivée de milliers de personnes suite aux attaques de militants de Boko Haram dans la région. La survie est le maître mot, nous dit Nicolas Pinault, l'envoyé spécial de VOA Afrique au Tchad qui les a rencontrés. Reportage.
À quelques kilomètres avant d'arriver à Bagassola, le camp de Dar es Salaam, le drapeau tchadien flotte au-dessus des 8500 Nigérians qui y ont trouvé refuge. Tous, ou presque, racontent la même histoire, les attaques des djihadistes en pleine nuit, des villages brûlés, des vies arrachées. Eli Wakassou est originaire de Koukawa, dans l'état de Borno.
Environ des 24 heures comme ça du matin, la Boko Haram a attaqué leur village. Je sais que entre deux filles, j'ai venu avec mon enfant. Il y a cinq enfants et deux femmes. Et mon père avec mon petit frère, tous, ils sont sortis par Médour et moi, j'ai venu ici au Tchad. Il y a mon grand-fils même, on l'a tué à cette attaque-là. On a brûlé, les Boko Haram a brûlé tout le village qu'on est dedans.
Dans ce camp, l'aide humanitaire arrive, mais les réfugiés estiment que ce n'est pas assez. Beaucoup n'attendent qu'une chose, traverser la frontière dans le sens inverse et retrouver le Nigeria. C'est l'avis de Kaka Aboubakar. Cette femme est originaire du village de Baga.
Avant, au Nigeria, on faisait du commerce, on pouvait manger et boire comme on voulait. Mais ici, on n'a rien, on ne fait rien. On nous distribue seulement des vivres, mais ce n'est pas assez chaque mois. S'il y a la paix, même demain, on rentre chez nous au Nigeria.
Du côté des autorités tchadiennes, on demande aux agences humanitaires d'aider les réfugiés et les déplacés à faire de l'élevage ou de l'agriculture pour subvenir à leurs besoins et ne pas dépendre que de l'aide humanitaire. Dimoya Swapebe est le préfet du département de Kaya, région du lac.
Il est question de dire à nos partenaires humanitaires, est-ce qu'il faut continuer à garder ces gens comme ça, attendre à ce qu'on leur apporte à manger? Nous disons non. Ce que nous demandons maintenant, c'est de faire en sorte que les activités de résilience puissent être prospérées au profit de ces populations. C'est à travers cela que cette population pourra se sentir à l'aise.
«
Au camp, Joseph Kodal, entraîneur de l'équipe de football, surveille les enfants de Dar es Salaam taper dans le ballon pour se changer les idées et oublier un peu leur situation.
Le travail que je fais avec les enfants, c'est de leur faire oublier un peu ce qu'ils vivent. Avec le ballon, l'enfant s'amuse et ne pense pas à la vie au camp. Ça leur change les idées et à moi aussi.
À Dar es Salaam, les réfugiés espèrent que les opérations de la force multinationale menées contre Boko Haram dans les îles du Lac Tchad leur permettront de rentrer bientôt chez eux. Depuis Bagassola au Tchad, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
5 soldats nigériens ont été tués et 40 blessés dans un attentat suicide mené par un combattant du groupe djihadiste Boko Haram contre un convoi militaire dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué à l'AFP des sources militaires. Le kamikaze, qui appartiendrait à la faction d'Abu Musab al-Barnaoui de Boko Haram, a attaqué jeudi le convoi qui menait des opérations de nettoyage entre les États de Yobe et Borno, d'après deux officiers qui ont requis l'anonymat. La faction rivale de Aboubakar Shekau mène surtout des attaques contre les civils, tandis que celle d'Al-Banawi vise plutôt les militaires. Près de 7,7 millions d'Éthiopiens ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, soit 2 millions de plus qu'une estimation précédente datant de janvier 2017, a annoncé un organe du gouvernement éthiopien. La commission chargée de gérer les risques de sinistres nationaux avait annoncé en janvier qu'en raison de la faiblesse des pluies, 5,6 millions de personnes auraient besoin d'aide alimentaire cette année dans 3 des 9 régions du pays, Oromia, Amhara et Nation du Sud. L'Éthiopie compte une centaine de millions d'habitants au total.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24 heures sur 24.
Ici à Washington, il est 7h06. Pour marquer ses 100 jours à la Maison-Blanche, Donald Trump s'exprime ce vendredi devant la National Rifle Association, le puissant lobby des armes qui lui réservera un accueil glorieux. Le dernier exemple d'un chef de l'exécutif américain en date remonte à près de 35 ans avec Ronald Reagan, la NRA, qui tient sa 146e conférence annuelle, avait apporté très tôt dans la campagne présidentielle son soutien à Donald Trump et lui a offert un appui financier de taille. Le président américain a estimé jeudi que les États-Unis n'étaient pas traités sur un pied d'égalité avec les autres pays par l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump, qui fêtera donc samedi ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche, a précisé qu'il prendrait sa décision en la matière dans environ 2 semaines, tout en estimant que la Chine, l'Inde, la Russie et d'autres pays ne payaient pas assez pour aider les nations les plus pauvres à lutter contre le changement climatique. Séoul a balayé aujourd'hui les propos du président américain Donald Trump, laissant entendre que la Corée du Sud devait payer pour un bouclier antimissile américain à $1 milliard en cours d'installation par les deux alliés pour faire face aux menaces nord-coréennes. Les premiers éléments du système THAAD sont déjà arrivés sur un parcours de golf du comté de Seongju à 250 km au sud de Séoul, suscitant la colère de Pékin dans un contexte de fortes tensions dans la péninsule. Des responsables américains ont dit, selon l'AFP, que le bouclier serait opérationnel dans les prochains jours. En Afghanistan, les talibans afghans ont lancé leur offensive du printemps, baptisée Opération Mansouri, du nom de leur ancien leader, promettant de viser en priorité les forces étrangères stationnées donc dans le pays. L'ennemi sera visé, harcelé, tué ou capturé jusqu'à ce qu'il abandonne ses derniers postes, promettent les talibans. Ils entendent pour ce faire déployer tout un éventail de stratégies, de l'attaque conventionnelle aux opérations de guérilla, ainsi qu'aux attentats, précisant à leur sujet qu'il pourra s'agir d'attaques suicides, d'attaques complexes et d'attaques de l'intérieur, retournant des soldats ou des policiers contre leur père. L'annonce intervient alors que l'armée afghane est privée de ministre de la Défense et de chef d'état-major. Ils ont tous les deux démissionné après l'assaut taliban meurtrier contre une base militaire la semaine dernière dans le nord du pays, qui a fait près de 200 victimes, dont 135 morts au moins, de sources officielles. Fin de ce journal. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain, c'est dans 50 minutes et vous retrouverez Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi et bon week-end à tous. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.